RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour de la discussion et du débat. C'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules. Nous sommes ensemble en direct sur RMC, la radio, et RMC Story, la télé. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Barbara Lefebvre, l'enseignante. Bonjour Barbara.
Bonjour les amis.
L'agriculteur Didier Giraud, l'éleveur de bovins en Saône-et-Loire. Bonjour Didier.
Salut Alain, bonjour à la France profonde.
L'avocat Charles Consigny des nôtres. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
On a un duel de Consigny prévu tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules. À partir de 11h, Charles Consigny, l'avocat, face à une personnalité publique, une actrice qui n'est autre que ta tante, Anne Consigny.
Oui, Anne Consigny qui est en ce moment sur scène le soir dans un seul en scène. Elle joue la pièce de Marguerite Duras, un barrage contre le Pacifique, que tu connais sans doute, Barbara.
Je le lis tous les jours.
Voilà, au théâtre de poche, du mardi au samedi. Alors, on a vu qu'Anne Consigny avait signé la tribune anti-Bolloré. Charles, lui, avait dénoncé cette tribune. On s'est dit, tiens, ça serait marrant d'entendre les deux débattre ensemble. Donc, Charles, face à sa tante, c'est inédit, c'est dans les grandes
c'est
gueules.
La branche gauchiste de ma famille. Mais voilà, on va rejouer les repas de Noël.
Et la semaine prochaine, c'est Didier contre sa cousine.
Non, contre son frère, on pourrait, parce que son frère est un fidèle auditeur de
GG. Ouais, mais ils sont d'accord.
Mon
sur
frère,
tout.
Moi, il va aller dans le même sens que moi, là.
Oui, c'est voilà, ça, les
de poisson. Alors, si tu veux nous mettre tous les deux, tu mets Madame Rousseau en face, mais tu.
Ou non, Barbara, mais tu.
Non, mais nous mettra pas l'un contre
l'autre. T'avais compris, c'est l'idée, c'est de trouver quelqu'un de ta famille.
L'idée, c'est de ta famille. Mettre quelqu'un de ta famille.
Avec qui tu n'es pas d'accord.
Oui, mais Madame Rousseau.
Il y a quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord.
Madame Rousseau fait partie de ta famille.
Bah oui, oui, oui. Alors là, je vais l'adopter.
Donc, ce sera tout à l'heure. Rendez-vous à 11h dans les GG, dans les grandes gueules, pour le duel de Consigny. Nos petits sujets du jour, Gilles Lellouche qui s'exprime sur son compte Instagram pour mettre les choses au point concernant la polémique, puisqu'il a refusé de répondre à une question sur la France insoumise. Justement, l'élection présidentielle de 2027, selon les sondages, Jordan Bardella caracole toujours en tête, mais qui pour la deuxième place, Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon? Qui pour se qualifier pour le deuxième tour, Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon? L'écart se resserre entre les deux. Voilà, vous pouvez commencer à faire chauffer le 32-16, mais notre premier sujet de discussion, ça va encore être un problème de train, de TGV et des voyageurs qui sont restés bloqués des heures et des heures avant de rejoindre le sud de la France. Ce sont des voyageurs qui sont arrivés épuisés. Deux TGV sont restés bloqués sur les voies au nord de Lyon après un défaut d'alimentation électrique. Enquête en cours.
Oui, deux TGV, Lille-Marseille et Nice-Paris, plein à craquer puisque c'était les retours du week-end de la Pentecôte, bloqué, tu l'as dit, au nord de la cité des Gaules, en raison de la même panne, un problème d'alimentation électrique. Alors comme il n'y avait pas d'alimentation électrique, il n'y avait plus de clim à l'intérieur du train, et dans ce cas-là, les températures ont très vite monté, tout le monde avait très chaud, il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, et en plus, dans ce cas-là, à la SNCF, on prend toujours un certain temps à prendre des décisions, déjà à informer les gens, beaucoup se sont plaints de ne pas avoir d'infos, et puis ensuite on a mis du temps à ouvrir les portes tout simplement pour que les gens puissent sortir et se mettre à l'ombre du TGV. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les images, on les voyait le long de la voie, assis à l'ombre du TGV, attendant d'être dépannés. Un maire raconte, parce qu'il a accueilli des naufragés, raconte qu'un voyageur a pris une amende de 200 euros parce qu'il avait ouvert la porte sans autorisation préalable, parce que ses enfants suffoquaient, donc il voulait simplement qu'il y ait un peu d'air. Il a pris une amende. Alors, je sais pas si l'info est, c'est ce maire qui dit ça. Si c'est vrai, c'est quand même particulièrement scandaleux. En tout cas, on a attendu qu'une locomotive diesel, comme quoi le diesel, ça sert encore, qu'une locomotive diesel vienne porter assistance à ces deux trains pour libérer tout le monde. Bref, ça a été un cauchemar pour les voyageurs. Bienvenue en France.
Les TGV de l'enfer, comment est-ce qu'on en arrive encore à des problèmes pareils? 32-16 pour le dire au GG, Didier Giraud.
Moi, ça me fait beaucoup m'interroger sur la période qu'on vient de vivre depuis un mois et demi, là,
où tous les membres du gouvernement t'expliquent qu'il faut passer au tout électrique.
Et aujourd'hui, il y a une grande réunion. Emmanuel Macron rassemble toute la filière électrique.
Je suis dubitatif sur le tout électrique. La preuve, tu l'as dit toi-même, c'est des vieilles Michelin au gasoil bien rouges qui est venu les dépanner et enfin des applications d'emmerdement si t'as plus d'électricité. Il y en a des centaines de milliers, comme par exemple des gens qui se retrouvent bloqués chez eux avec leur volet électrique, quoi. Je trouve que ne plus avoir d'alternative à l'électrique, c'est quand même un vrai problème. Ne pas être capable d'anticiper à la SNCF que ces périodes de canicule qu'on connaît maintenant de plus en plus régulières posent des problèmes à la circulation de leur train. Enfin, ce qu'on est en train de commenter là, on l'a fait il y a un an, je vous rappelle. Et j'arrive pas à comprendre comment...
Comment des gens
comme la SNCF, avec tous les cadres administratifs improductifs qu'il y a dans leur bureau, arrivent pas à trouver un plan B quand ce genre de problème arrive et qu'on se retrouve avec des 12, 13, 15, 20 heures de retard, quoi. Tu vois, dans la semaine dernière, il y avait eu un train qui descendait sur Marseille où il y avait eu un suicide. Mais qui sont arrivés avec 12 heures de retard à Marseille.
Ça, suicide, la SNCF,
tu peux le comprendre, ça. Mais anticiper une panne électrique quand ils annoncent 30 degrés.
C'est la responsabilité de la compagnie.
Voilà. Moi, je j'arrive pas à comprendre comment il n'y a pas un plan B, quoi.
Effectivement, par exemple, on se dit, il faudrait quand même que ces trains puissent fonctionner en cas de problème avec une autre source d'énergie que l'électricité. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer des trains, pour le coup, hybrides, avec, en cas de problème, comme un voilier est toujours équipé d'un moteur, quand il n'y a pas de vent, les voiliers, ils rentrent au port au moteur. Bon, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un moteur à essence, ou à diesel, ou ce que vous voulez, en plus du moteur électrique, par exemple? Je pense.
Alors,
que...
il y a des nouveaux TGV qui vont arriver, où il y aura des batteries. L'intérieur de ces TGV qui permettront aux TGV d'être acheminés à quelques kilomètres dans une gare, parce que le problème c'est l'impossibilité de tirer le TGV jusqu'à une gare proche pour pouvoir évacuer les gens et organiser l'évacuation.
Le problème c'est que sur les lignes TGV, les gares elles sont loin les unes des autres aussi.
Mais t'as des petites gares que tu peux utiliser, même si c'est pas les gares TGV.
En tout cas, donc on voit bien qu'il faut améliorer la technologie et qu'il faut un plan B. Parce que c'est pas tenable.
Et aussi l'information quand
ensuite,
même.
Ensuite, si c'est la chaleur, la chaleur, ça va revenir tous les ans maintenant. Donc il faut peut-être quand même penser à s'adapter. On peut pas découvrir tous les étés qu'il fait chaud, si tu veux. En France, on a l'impression. On a l'impression que tous les hivers, on découvre qu'il neige et qu'il fait froid, et tous les étés printemps qu'il fait chaud. Donc je pense que là aussi, on a un petit effort d'adaptation.
Surtout qu'on n'est pas en été, on est à peine au printemps, là, dans
une
période exceptionnelle.
Donc imaginez ce que ça va être dans la fournaise du mois d'août, si les trains ne peuvent pas circuler, il y aura un problème. Donc franchement, la SNCF est une boîte suffisamment riche et suffisamment perfusée d'argent public pour qu'elle fasse un peu l'effort, et puis il y a assez de monde aussi dans ses équipes pour faire un petit effort d'anticipation. On lui demande aussi d'anticiper et de prévoir ce qui va se passer en termes de climat.
Barbara.
Cette panne, on en parle aujourd'hui parce qu'elle s'est trouvée dans un contexte de canicule et que donc les gens ont été obligés de sortir plus ou moins apparemment par eux-mêmes de la locomotive et des wagons pour pouvoir s'aérer. Mais je crains et je crois, d'après ce que disent ceux qui utilisent régulièrement le TGV, ne serait-ce que dans cette équipe, que c'est très fréquent. Des trains qui restent en rade comme ça,
malheureusement.
On n'en parle pas, mais c'est régulièrement dans l'année. Bruno Poncet évoque régulièrement ici la maintenance qui laisse quand même à désirer. Et encore, sur le TGV, sur les lignes TGV, je crois que la maintenance est quand même largement... plus performante qu'elle ne l'est, par exemple, sur les RER, parce que, excusez-moi, mais quand vous prenez les transports, ou certains TER, mais les transports du quotidien, les RERC et compagnie, tenez, regardez, par exemple, ce matin, il n'y avait pas de RERC.
Ah bon?
Non. Donc jusqu'à 7h29, il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, à 7h40, j'ai vu quelqu'un qui
écrivait
sur le WhatsApp.
Il y a eu personne, comme on dit.
Non, mais on ne sait même
pas. Tu sais, Barbara, le TGV sur la ligne Paris-Lyon, c'est le transport du quotidien.
Hein. Oui, non, mais c'est pourquoi...
Non, mais l'accident de personne, RERC ce matin, bloqué. Ouais.
Voilà, mais c'est pourquoi, vous voyez, moi, j'ai une voiture électrique.
Donc,
c'est
tous les jours, quoi.
Mais c'est pour ça que je ne viens pas en train. Et pourtant, je pourrais venir en RERC, mais je ne viens pas puisque je ne sais pas. Si je me retrouve coincée à l'intérieur du train à Issy, Val de Seine, je fais comment pour arriver? J'arrive pas à l'heure.
Pour toi, c'est pas un moyen de transport suffisamment garanti.
Non, alors
en fait.
Justement, donc là, il y a une vraie problématique. Le TGV, encore une fois, c'est pas les lignes les moins bien entretenues. Mais on voit bien, je vous l'avais raconté, moi quand j'habitais Rouen, au bout d'un certain temps, j'ai dit bon, on n'habite plus Rouen parce que à chaque fois que tu prends le train, tu penses que tu vas arriver à Paris en 1h40, tu mets 3h20 pour arriver.
RERC, deux choses, accident de personne, je sais pas ce que ça veut dire, accident de personne.
Ah bah c'est oui, okay,
et
si panne, un malaise aussi. Non.
Et panne de signalisation.
Mais il y a autre chose, hein, parce que la gare
des
de Lyon,
sur
le TGV
train,
qui descend dans le sud, il y a quelque chose encore ce matin, hein, voilà, je te l'annonce. Hein. Moi, j'ai mis 20 minutes pour traverser la gare. Hein. Y a les trains de 7h, 7h10, 7h20 qui vont dans le sud, Perpignan, tout ça, qui n'étaient pas partis ce matin. Tout le monde était dans la gare de Lyon assis. Hein.
Oui, non, mais parfois, accident magnifique. De personne, ça peut être quelqu'un qui s'évanouit à l'intérieur du RER. Et moi, je ne comprends. J'ai du mal à comprendre.
Mais dans ce cas, ça, c'est malaise voyageur.
Bah, non, des fois, on te dit. Mais en plus, de toute façon, les informations. Les informations qui te donnent sont toujours aléatoires. Donc
moi, accident de personne, c'est quelqu'un qui est
avant
tombé.
Avant d'écouter Nicolas au 32-16,
un accident.
C'est le temps quand même. 8h30. Tu es bloqué 8h30.
Bah ouais, mais...
8h30 dans un TGV.
Mais c'est là, moi, si avec
des enfants, t'imagines.
C'est
un bébé.
Ça, si tu veux. Le manque de réactivité, c'est voilà. Ça.
On est resté bloqué 2h30. Tu peux dire
la situation ou un
train. Est-ce que là, les gens...
Oui, la situation où un train est en panne. C'est une situation sur la ligne TGV connue.
Pas laisser
connue.
Les gens 8 heures bloqués. Enfin,
voilà.
Aujourd'hui,
et comment on fait pour ne pas faire venir un train à côté avant 8 heures quoi. Non, ou dépêcher des bus.
Ah, mais là, ils étaient
non.
Dans la Cambrousse complètement.
Mais non, c'est dans la Cambrousse. Tu peux pas avoir accès.
Non, mais
avec attends, les bus.
Dans la Cambrousse, pardon, t'es au nord de Lyon.
Non, mais regarde.
Oui, j'ai vu.
Il n'y a pas d'accès.
J'ai vu les pompiers qui passent par-dessus les grillages, quoi. Donc,
d'accord. Sauf que, à côté, ne me dis pas que t'as pas une route nationale ou une route départementale.
Et pas très loin.
Donc, si tu veux pas non plus provoquer un accident.
Mais attends, c'est pas ça. C'est dit partant de Lyon. Imagine
une métropole.
Une cheville en allant du nord jusqu'au bus.
Ce que je veux dire, c'est que partant de Lyon,
le long des voies,
métropole, au bout de 2-3 heures, tu peux dire, les amis, on a une situation d'urgence, on a des passagers à récupérer. Tu peux essayer, partant de Lyon, d'affrêter. Je sais pas, c'est un scénario. 2 bus ou 3 bus pour au moins voir les femmes et les enfants d'abord, tu vois, les passagers les plus petits,
et les
amener vers une ville à ce moment-là. Je connais pas bien la région, mais j'imagine qu'il y avait une départementale, une nationale et ensuite une localité.
C'est
terrible dans les images qu'on a vues.
Pour aller du bord du train à ton potentiel bus sur la route départementale. Supposons, il faut traverser un champ. Ah bah non,
c'est ça,
parce qu'un tiers va se mettre une épine dans le pied, l'autre va se mettre et il peut porter plainte. Donc la SNCF ne voudra pas prendre le risque. Attention,
Il y a plus grave que ça, Barbara. Dans les images qu'on a vues aussi, moi j'ai vu un pompier escalade. Tu sais ce qu'il escalade? Une barrière. Hein.
Oui, une barrière.
Il escalade une barrière SNCF qui ferme à clé. Ça veut dire que quand les pompiers sont arrivés, on n'était pas foutu de mettre un agent SNCF qui ouvre la barrière.
Mais c'est pas ça, c'est que normalement, ils ont une tenaille, les pompiers, tu vois.
Mais
ils ont
une tenaille pour ouvrir. Mais non, a priori, tu vas pas casser la barrière.
C'est un portail. Un portail.
Il n'y a pas besoin d'une tenaille. Il doit y avoir un type de la SNCF qui lui
vient ouvrir. Mais s'il n'est pas là,
le tout, c'est de trouver le mec.
Les pompiers, ils ont bien une hache ou une masse pour enfoncer les
clés, quoi, le problème.
Didier.
200 000 personnes.
D'accord, mais même là, les pompiers, quand ils n'arrivent pas à pénétrer dans un appartement, ils ont une masse ou une hache. D'accord. Là, ils devraient avoir une tenaille pour pouvoir couper et ouvrir.
Je pense que le premier a escaladé et puis que le portail, ils l'ont ouvert. Mais Nicolas est avec nous.
Bonjour,
Nicolas.
Quand les pompiers arrivent, il n'y a personne.
Bonjour, bonjour.
Salut, Nicolas. Du Rhône, je ne sais pas si c'était loin de chez vous, là, ce qui s'est passé ou pas.
Moi, je suis dans le sud de Lyon, donc c'était au nord.
Oui, oui, oui.
Donc bon, c'était pas très loin.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, rien de nouveau sous le soleil. Ça fait, je vous écoute depuis Sophie de Menton, Karine Deribier et tout ça. Et vous avez le débat 3-4 fois par an.
Hein. Et vous trouvez, on n'a pas changé, non?
Ah, ça n'a rien changé. C'est le débat, il est 3-4 fois par an. Et
oui, mais nous, on n'a pas surtout Alain. Il n'a pas changé, Alain.
Vous êtes en train de dire qu'on ne fait pas avancer le chemin public? Attention.
Ah bah, je crois pas, non. Il me semble que de toute façon, on ne peut pas interroger le fonctionnement de cette entreprise parce qu'on se retrouve avec les syndicats vent debout, qu'on continue à mettre des milliards et des milliards dans une entreprise qui a aucune performance, aucune efficacité. Enfin, je veux dire, sans aller au fonctionnement du Japon, mais comparer le réseau ferroviaire à ce qui se fait ailleurs dans le monde.
Ah bah au Japon, ils sont jamais en retard sur tout.
Ah, et Nicolas, alors attendez, parce que on a Christophe qui est de Marseille, qui est commercial. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Parce que ce dont on parle, ça vous a rappelé un petit souvenir récent là.
Exactement, je suis désolé, je passe dans un tunnel. Alors je suis de retour de Paris le 19 mai, et au bout d'une heure, le train est tombé en panne. On est resté bloqué 2 heures dans le train, le conducteur du train prenait régulièrement la parole pour nous informer. pour nous dire finalement
qu'il,
que le train...
Qu'il ne savait rien.
Il savait à peu près, mais il n'était pas sûr de lui. Tout ça pour nous dire qu'on retournait sur Paris, donc tracté avec un train où on allait rouler à 80 km/h. Et on nous a dit, arrivé à Paris, vous changez de train et vous retournez sur Marseille. Donc on était informé 3h30 de retard. Sauf qu'en arrivant presque à Paris, pas plus de train. Vous dormez à Paris. Ok.
Donc l'hôtel est pris en charge ?
Alors justement, on nous a promis des hôtels sélectionnés sur une liste avec un lien où on pouvait cliquer. Sauf que le lien ne marchait pas.
Ah.
Rien ne marchait. On nous a dit des agents vont vous accueillir sur le quai. Zéro agent
pour
vous accueillir. Si, deux agents qui nous accueillent avec des box pour manger. Voilà, avec des repas pour enfants à l'intérieur. Moi, je fais 95 kilos. Il y avait des compotes à l'intérieur.
Ça et vous on a fait du bien.
Voilà. Et on s'est tous rendus au hall 2. On était 500 à faire la queue. Tout ça pour récupérer un prospectus avec un QR code pour se faire rembourser l'hôtel.
D'accord.
Voilà, une catastrophe.
Et le périple a duré combien, du coup, au total, alors finalement,
au total,
si on cumule
c'est juste, pour moi, la panne peut arriver, mais c'est la communication qui est désastreuse. L'accueil. Ouais. L'accueil, en fait, ils ont pris des agents au dernier moment qui travaillaient, qui n'étaient pas censés être là. Et moi, j'ai l'impression que cette entreprise fait beaucoup de profits au détriment des employés et des voyageurs.
Il y a 284 000 employés à la SNCF.
Non, puis tout est à flux tendu, quoi. En fait, que ça soit le trafic, que ça soit le personnel pour gérer ce genre de crise tel que vous nous le décrivez, il n'y a pas, c'est pas prévu, quoi.
Mais il y a un problème de process, quand même. Et peut-être aussi de la culture du client. C'est-à-dire, il faut satisfaire le client. Le client qui paye très cher, en plus, j'imagine les tarifs pour un lundi de Pentecôte, un retour de Pentecôte, c'est là, tu payes plein pot, quand même. Tu es en famille. Il faut derrière qu'il y ait quand même
un minimum de
l'obligation,
service.
L'obligation de bien servir ton client,
dans
même
tous les
quand
cas,
il y a des difficultés.
Merci. À vous, Christophe, d'avoir partagé ce souvenir. Je vous en prie. Et puis, à bientôt. Merci à Nicolas aussi de votre fidélité.
Oui, Jean Castex ne dit rien.
À bientôt.
Il est absent. Il se prépare
pour
la présidentielle.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
C'est le chouchou du président pour 2027.
On y croit. Dans un instant, on va regarder.
La France marchera comme mes TGV.
On va regarder avec vous les excuses. Enfin, pas les excuses de Gilles Lellouche. La mise au point, tu sais, du comédien Gilles Lellouche après la polémique. Au Festival de Cannes, il venait présenter le film Jean Moulin, puis il n'a pas voulu répondre à une question sur la prochaine présidentielle. Donc, il a été traité de Gilles Lelâche. Il dit non, ça va trop loin, on ne peut pas remettre en cause mon engagement. Mais il a quand même été sommé de s'expliquer, et c'est ce qu'il a fait sur son compte Instagram. Et on va en discuter avec vous au 32-16, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story aujourd'hui avec Barbara Lefebvre, Didier Giraud et Charles Consigny.
Didier est très belliqueux hors antenne.
Extrêmement.
Il fait le gentil caméra allumée, mais
moi,
je peux vous dire.
J'ai peur pour Charles.
Mais je vais me battre aujourd'hui.
C'est spécial.
Alors, en même temps, Charles a décrété l'interdiction des chemises à manches courtes aussi, qui est une attaque personnelle.
Surtout douleur lavande.
En même temps, ce que les gens ne savent pas, c'est que Charles est en slip sous son costume, parce que vous voyez le haut, il est super bien habillé. Charles n'a pas de pantalon, ça personne ne le voit parce qu'il a trop chaud comme les autres, quoi. Moi j'assume ma chemise à manches courtes. Didier Giraud, Charles Consigny, Barbara Lefebvre, parlons de l'acteur Gilles Lellouche. C'était lors de la présentation du film Jean Moulin à Cannes, lors de la conférence de presse, il y a un journaliste d'un média proche de la France Insoumise qui lui demande, Gilles Lellouche, s'il est primordial pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement National, si la France Insoumise majoritaire à gauche est le meilleur rempart contre l'extrême droite. Ce à quoi Gilles Lellouche lui répond,
question de cinéphile, on le remarque.
Oui. Ce à quoi Gilles Lellouche lui répond, votre question est un peu orientée. Je n'ai pas de réponse à ça, monsieur. Et alors, depuis, tempête.
Ben oui, parce qu'il a été rebaptisé sur les réseaux sociaux Gilles Lellouche. Et ça a été repris d'ailleurs par des médias comme le HuffPost, très à gauche. En fait, c'est complètement ubuesque. presque. C'est-à-dire qu'on reproche à Gilles Lelouch de ne pas avoir dit « Oui, oui, la France insoumise est le rempart idéal au Rassemblement national ». Gilles Lelouch a le droit de ne pas dire ça, et surtout qu'en plus, il était là pour présenter un film. Mais la pression est telle que Gilles Lelouch, le comédien et réalisateur, a été obligé de répondre sur son réseau social, un post Instagram, pour répondre. Donc, il dit d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de violence sur les réseaux sociaux. En refusant de répondre à une question que j'ai jugée manipulatrice et orientée, on m'a traité de lâche, voire même de soutien de l'extrême droite, laquelle instantanément s'est empressée de me soutenir comme la corde soutient le pendu. Je veux être clair, je n'ai jamais soutenu, ne soutiendrai jamais un parti ou une idéologie qui prône la haine, l'intolérance et la discrimination. Mes prises de position passées parlent pour moi. Je défendrai toujours les valeurs de la République et les principes qui font la grandeur de notre pays. C'est d'ailleurs le combat que je mène à travers le rôle que j'ai tenu, celui de Jean Moulin. Est-ce qu'il a eu raison de répondre, Gilles Lelouch,
Barbara? Et la question.
La première fois.
Tu dis, il a dû répondre.
Oui.
Non.
Il
a estimé qu'il devait répondre à la meute des réseaux sociaux. Mais là, c'est là qu'est le grand problème. Moi, je parle même pas de Gilles Lelouch. La question, c'est aujourd'hui, pourquoi certaines personnes se sentent obligées, bon déjà, encore faut-il être tout le temps sur les réseaux sociaux pour se rendre compte du dégueulis permanent de ce qui s'y passe, mais pourquoi quand vous recevez ce qu'on appelle les shitstorms, les bad buzz et machin, pourquoi se sent-il obligé de répondre? Il n'est pas obligé de répondre. Il a répondu clairement pendant une conférence de presse à une question du média Parole d'honneur qui est proche des indigènes de la République et qui désormais est proche de Jean-Luc Mélenchon, à une question qui n'avait rien à voir avec le film. Il y a très bien répondu. La vraie question à se poser, c'est pourquoi, dans ce monde idéologique du cinéma, se sent-il obligé de faire son autocritique sur les réseaux sociaux pour répondre à la meute? Mais on s'en fout, la meute, les chiens à bois, la caravane passe. Moi, j'en aurais rien. Je serais Gilles Lelouch. Non, je pense que par exemple son frère, Philippe Lelouch, pour qui j'ai beaucoup de respect, n'en aurait eu rien à faire de la meute, qu'elle vienne d'un côté ou de l'autre. Donc, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. C'est fait pour une cible, une meute, assoiffé de sang et si possible dans l'anonymat, hein, évidemment le plus possible, sauf certaines organisations politico-syndicales.
C'est dégueulasse de l'avoir rebaptisé Gilles Lelouch.
Mais alors, tu t'en fous, on se fait traiter de facho, de réac, de ci, de là en permanence. Si tu dois réagir à chaque fois qu'on t'insulte, Gilles Lelouch, eh ben Gilles Lelouch, c'est tout. Le problème, c'est qu'il a intégré l'idée de l'autocritique et qu'il faut répondre à la meute d'extrême gauche qui te traite de lâche. Moi, j'en aurais rien eu à faire, qu'elle soit d'extrême gauche, d'extrême droite. On s'en fout, on répond pas à la meute.
Didier.
On file son chemin à soi, c'est tout.
Moi, je pense que toute cette bien-penchance de gauche et d'extrême gauche, là, qui choisit des cibles au hasard, je pense qu'elle devrait s'interroger pourquoi Gilles Lelouch a répondu ça en conférence de presse. Parce que c'était peut-être aussi par décence de ne pas avoir à leur dire que la France insoumise était largement aussi radicalisée et aussi extrémiste que le Rassemblement National. Il aurait aussi pu leur répondre ça. Et c'était peut-être d'ailleurs le fond de sa pensée. C'est peut-être pour ça qu'il a un peu temporisé et puis qu'il a un peu fait du tiède en disant c'est trop orienté, c'est pas le problème. Et puis après, moi, je rejoins un peu Barbara. Enfin, tu peux pas, sur ce genre de pression médiatique, être obligé de faire un monde honorable sur un truc où il avait pas dérapé, quoi. Enfin, il avait rien dit de grave, ça, il avait pas... Enfin, moi, je suis désolé, ceux qui s'excusent, c'est des lâches, hein. C'est ceux qui s'excusent qui sont des faibles et des lâches. Ceux qui assument leur position en disant, bah écoutez, ça c'est une question politique, je ne réponds pas à une question politique. Après, il laisse aboyer la meute.
Il n'aurait pas dû se justifier que bien entendu, il n'est pas.
Pour moi, la lâcheté, elle est là, hein. Elle est là, la lâcheté et le manque de courage, c'est de ne pas avoir assumé le fait de dire à un journaliste en conférence de presse, je ne réponds pas à cette question orientée. Voilà. Il avait qu'à tenir ça jusqu'au bout, hein.
C'est vrai qu'on lui mettait un peu un flingue sur la tempe, façon politburo, quoi.
Oui.
Il avait vraiment le côté, soit tu nous soutiens, soit on t'envoie au goulag. Mais bon, ils jouent tous Jean Moulin, des grands personnages. Dujardin nous a fait aussi son grand film sur la résistance et la collaboration et l'occupation. Ils n'en finissent pas de convoquer les heures les plus sombres, etc.
On a deux films sur De Gaulle qui sont en plus.
Et, il pourrait s'engager un peu plus, c'est vrai. Être acteur, c'est
la
pas
France insoumise, c'est des extrémistes. Il aurait pu leur dire ça aussi.
C'est pas seulement palper des honoraires à 6 chiffres ou 7 chiffres d'ailleurs faire des profiter du Martinez. Il y a un moment, soit tu joues.
Non mais c'est des comédiens, on leur demande pas de militer ou
mais
de
mais
nous
tu vas, mais non, regarde ce qu'il dit.
Il dit, mais mon engagement en témoigne, y compris justement mon film où j'incarne Jean Moulin. Bah, n'est pas Jean Moulin qui veut. Si tu veux Jean Moulin, je pense qu'il était quand même un tout petit peu plus engagé que Gilles Lelouch. Bah, voilà. Non, mais pardon de dire les choses. Donc, ils pourraient quand même tous se mouiller un tout petit peu plus. Oui. Ou alors, dans ce cas-là, faut juste jouer, Seb Lafrite, là, je sais plus quelle était, Brice de Nice. Voilà. Si tu t'en tiens à Brice de Nice, bon, bah, t'es pas obligé. Oui,
mais c'est
de...
bizarre parce que vous faites le procès de Gilles Lelouch.
Non, je fais pas ça.
Je viens de te dire
que c'est
le type, il se retrouve dans une conférence.
Je dis qu'il aurait dû assumer, moi.
Il y a une question complètement insidieuse. Je me demande d'ailleurs comment on distribue les accréditations à Cannes. Il y a plein de journalistes de cinéma qui aimeraient être à la place de ce militant. Là, déjà, ça interroge comme l'organisation du Festival de Cannes. Que fait ce militant-là?
Il vient poser des questions à la con.
À venir poser des questions pernicieuses et orientées, alors qu'il y a sans doute des vrais passionnés de cinéma qui devraient avoir sa place. Déjà, premièrement. Deuxièmement, Gilles Lelouch, justement, ne tombe pas dans le piège, parce qu'il voit bien que c'est une question manipulatrice, donc il ne tombe pas dans le piège, et derrière vous lui faites son procès. Alors effectivement, est-ce qu'il aurait dû se justifier?
Je pense qu'en fait...
Mais Gilles Lelouch n'est pas non plus insensible au type d'insultes qu'il a reçues de la meute, parce que, excusez-moi, à part l'avoir traité de Gilles Lelâche, il y a eu une certaine catégorie de messages le concernant. Comme ceux d'ailleurs qui sont déversés en permanence sur son frère parce que son frère assume certaines positions. Gilles Lelouch, il s'est pris des volets d'insultes antisémites
en général,
aussi,
ça va
par
avec,
la
meute.
Ah oui, non mais ça
avec
vient de gens.
Gauche, en général, ça va avec.
Ah ben voilà, parce que on le sait, puisque la justice autorise à le dire, comme l'a dit Raphaël Enthoven, que la LFI est passionnément antisémite.
Oui, mais donc, Barbara.
Est-ce qu'on peut remarquer Gilles Lelouch n'est pas dérangé en plus non seulement de se faire traiter de lâche, mais de se faire traiter de tous les noms au motif qu'en plus son frère Niania il est juif alors sioniste et blablabli blablabla, bah excusez-moi, c'est pour ça qu'il aurait dû avoir le courage de ne pas répondre au lieu de se justifier comme un
peut-être qu'il a pas envie,
envie d'alimenter la polémique.
Non mais c'est pas ça, mais c'est désagréable de se faire traiter de lâche qu'on ne l'est pas et qu'il a envie simplement d'expliquer sa position.
De se faire traiter de fasciste tous les jours, alors ça me rend d'une oreille.
Mais chacun agit différemment,
remarquerait quand même que tous ces gens qui se présentent comme des belles âmes ne sont pas étouffés par le courage et la prise de risque dans leur prise de position publique. Je suis désolé de le dire. Et donc, n'est pas Jean Moulin qui veut.
Ouais, voilà. Mais tu vois, tu peux pas dire ça, Charles. Moulin. Et puis en même temps,
Incarnant Jean Moulin, ça montre bien son engagement. Bah, je suis désolé. Jean Moulin, il s'est pas limité à faire un film. Il a fait beaucoup plus que ça comme engagement.
Oui, d'accord.
Donc,
Non, mais tu vois, Charles.
Il faut qu'ils arrêtent tous de se prendre pour des résistants alors qu'ils n'en sont pas. C'est tout.
Ah, ça, c'est sûr.
Oui, mais du coup. On leur demande pas non plus d'être engagés, quoi. C'est des acteurs.
Le prétendent.
Et c'est des acteurs qui soient
dits. Mais regarde les Césars.
Quand Mbappé prend position sur tout et pour tout, on lui tombe dessus à bras raccourcis en lui disant t'as qu'à jouer au foot. Moi, je trouve que Mbappé, il ferait mieux de jouer au foot plutôt que de parler à tort et à travers sur la politique.
S'il pense des choses. Pourquoi pas, les jeunes le suivent, Mbappé, il a le droit de dire ce qu'il veut.
Oui, il a la plus du coup. Mais en même temps, quand Gilles Lelouch dit, j'ai une forme de résistance, mais je m'engagerai pas plus, on peut aussi respecter ce choix-là.
Ça veut dire quoi? Mais t'imagines en 40 si les gens avaient dit j'ai une forme de résistance mais je m'engagerai pas plus.
Le piège qui est tendu par LFI, il est là. Il est de te faire croire que si demain Bardella était à l'Élysée, c'est aussi grave qu'en 1940. Non, on n'en est pas là du tout.
Attendez, je vais donner la parole à Michel. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, Michel?
Bonjour l'équipe. Je défends complètement Gilles Lelouch. D'abord, le jeu de mots sur son nom est absolument dégueulasse. Oui. Parce que c'est facile à faire le jeu de mots avec mon nom que je dirais pas, on pourrait pas le faire celui-là. Gilles Lelâche, c'est dégueulasse, premièrement. Deuxièmement, non mais qu'on lui fiche la paix, quoi. Il va présenter un film sur Jean Moulin et l'autre journaliste, LFI, là, qui lui prend la tête. Ce Jean Moulin de carton-pâte, là, qui fait des pétitions dans les chambres du Martinez, là. Enfin, non mais c'est quoi ça? Qu'on lui fiche la paix, quoi. Il n'a pas.
Je suis pas sûr que le journaliste qui a posé la question dorme au Martinez.
Historiquement. Parce que Jean Moulin n'était pas d'extrême droite, bien sûr, mais il n'était pas à gauche. Il était gaulliste, Jean Moulin. Alors, déjà, déjà, politiquement, Jean Moulin n'était pas ce qu'on appelle.
Il était de gauche. C'est une personnalité de gauche, Jean Moulin, mais peu importe. C'est une personnalité de gauche, Jean Moulin. Ce qui est intéressant, c'est que la résistance, justement, résistance rassemblait des gens venus de tous bords politiques.
À l'époque, l'extrême gauche était résistante.
Oui, d'accord.
Oui, et l'extrême droite aussi avait. Une partie de l'extrême droite avait rejoint De Gaulle. Non, mais voilà, une partie des croix de feu, etc. On rejoint De Gaulle et Bernanos, qui était un grand militant qu'on aurait qualifié effectivement un grand. D'abord, c'est un immense.
Je vérifie, mais je me demande si même Jean-Moulin n'était pas parti communiste.
À Londres, les premiers aux côtés de De Gaulle, c'est bien simple. Et c'est, excusez-nous, hein, mais c'était des intellectuels juifs et des mecs d'extrême droite. De la droite nationaliste à l'époque, on disait. Et l'autre partie de l'extrême droite, elle a rejoint Pétain. Et par ailleurs, on n'oubliera jamais quand même que les pleins pouvoirs à Pétain ont été votés massivement par la SFIO.
C'est-à-dire
le Parti Socialiste.
C'est de ma faute, j'ai fait dériver là, c'est de ma faute.
Ça ne faut jamais faire dériver avec Barbara, vous savez.
Voilà, mais comme ça a été dit tout à l'heure, qu'ils arrêtent là pour tous se prendre des Jean Moulin. Non, mais c'est quoi ça? Jean Moulin a été torturé atrocement, pas que lui. Il y a eu Brossolette, il y a eu Marc Bloch, etc. Mais ils se prennent pour qui là, ces journalistes d'extrême gauche là? C'est du, excusez-moi, je vais être dur, c'est du terrorisme intellectuel qu'on leur fout la paix.
Oui, mais Michel.
La question qui était posée à Gilles Lelouch, en gros, ce qu'ils attendaient, c'était que Gilles Lelouch dise. Oui, il faut voter LFI pour faire barrage au Rassemblement national. C'était ça qu'ils attendaient. C'était ça parce que
la question Michel. C'est pensez-vous que la France insoumise soit le meilleur rempart à l'extrême droite? Ben Gilles Lelouch n'avait pas envie de répondre oui. Voilà, je pense qu'il pense le contraire, voilà.
C'est tout. Il n'avait pas envie d'entrer dans le débat politique.
Il aurait aussi pu dire le contraire.
Ce qu'a dit Didier est factuel, c'est-à-dire que il faut replacer dans le contexte, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une gauche radicale qui considère que on est en 1940 et qu'en face, Bardella, Le Pen, c'est la même chose que, même pas Pétain, c'est la même chose que Hitler. Donc eux, ils sont dans cette logique et vous n'y pouvez rien. Vous pouvez toujours essayer de leur expliquer l'histoire, etc. Ils sont là-dedans. Bon, bah, il faut maintenant essayer de leur répondre sur un autre registre que de revenir tout le temps sur l'affaire Pétain, l'affaire Jean Moulin, etc.
Lelouch finit par leur répondre.
Répondre.
Nous tous ici, comme Michel qui est mon bien, l'histoire et la politique, ça a été théorisé ça. À partir du moment où tu ne condamnes pas, tu dis oui, il faut appeler à voter France Insoumise, tu es donc dans le camp des fascistes.
Oui, bah oui.
Tu es lâche. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous.
Mais même Rubin est facho.
Le antifasciste, soit tu es fasciste.
Le fascisme commence au communisme.
François Rubin est devenu un fasciste à cause d'une planche de BD. Alors qu'est-ce que tu veux faire?
Gilles Lelouch trouve la question déplacée. Il ne veut pas répondre en plein festival de Cannes. Donc tu ne dis pas qu'il faut voter contre les fascistes. Donc tu es dans le camp des fascistes.
Obligé de céder à la vindicte populaire.
Voilà, c'est autre chose.
Parce que du coup, dégueulasse, c'est quand la presse, comme le Huffpost, qui reprend l'expression Gilles Lelouch.
Ça les dévoile aussi sur leur idéologie, ceux qui reprennent.
Non mais qui est sur les réseaux sociaux des gens en général planqués derrière des comptes anonymes très courageusement qui a rebâti Gilles Lelouch, Gilles Lelouch. Bon, pourquoi pas. Mais que des médias traditionnels comme le Huffpost reprennent l'expression, ça c'est dégueulasse parce que c'est vraiment
ça les dévoile
cibles,
en fait.
C'est mettre des cibles sur des personnalités. C'est pour faire du clic.
Voilà.
Alors, merci à Michel d'avoir été des nôtres. 10 heures moins avant, on a posé la question Gilles Lelouch, qui s'est fait traiter de Gilles Lelâche. Finalement, il a répondu. Est-ce qu'il a eu tort de répondre? Vous êtes plutôt comme Barbara à dire oui, il a eu tort de répondre. Il ne devait pas s'abaisser à la réponse, à plus de 62%. Dans un instant, le on s'en fout pas. Restez avec les GG, avec les grandes gueules. Et puis, on aura bien sûr le top départ pour gagner les beaux cadeaux pour la Coupe du Monde. Restez avec les GG. Hein.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Avant de passer la parole à Louis Gerbier pour le on s'en fout pas. Attention. C'est parti pour l'intégrale Coupe du Monde. Tenter de gagner la totale de la Coupe du Monde 2026 ou les 10 000 euros. C'est pour vous. Vous avez 5 minutes pour envoyer liste par SMS au 732-16. Liste comme la liste des 26 joueurs sélectionnés, présélectionnés par Didier Deschamps. Et derrière les joueurs se cachent des cadeaux, la totale Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des bleus, ballon officiel, la boîte Lego du trophée ou le chèque de 10 000 euros. Vous avez envie de gagner? C'est pas un problème. À vous de jouer. Vous envoyez liste par SMS au 732-16. Il est 9h45. Vous avez donc jusqu'à 9h50. Soyons précis. C'est l'heure du on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Louis Gerbier.
Bonjour les GG, bonjour tout le monde. dissiper les deux petits élèves à ma gauche, voilà, là, Didier et Charles.
5 ans, il a 5 ans. Je te promets,
il va falloir les séparer.
Oui, il faudra le mettre en CM2 bientôt.
Et au pied du bureau du prof, comme faisait ma mère. Allez, on y va. Jean-Luc Mélenchon cherche à s'entourer de célébrités du showbiz pour sa campagne. On s'en fout pas, Barbara Lefebvre.
Non, on s'en fout pas, je suis curieuse.
Charles Consigny.
On s'en fout un peu.
Et Didier Giraud.
On s'en fout complètement.
Alors, pour Barbara, l'équipe de campagne a pris contact avec des artistes et des sportifs qui pourraient s'afficher avec le candidat Mélenchon. Par exemple, la chanteuse Théodora.
Que tout le monde connaît, bien sûr.
Si, je la connais.
Alors, en régie, ils connaissent tous. Hein. Mais peut-être juste.
Non, elle est hyper connue, Théodora. C'est pas sa meilleure chanson, d'ailleurs.
C'est la situation sur la photo, non ?
Oui, ça va arriver, Charles.
Ah, d'accord.
Et ensuite, le chanteur Yannick Noah.
Oui, le chanteur.
Ah si.
Puisqu'il était joueur de tennis aussi.
Ah oui. Bon, c'est pas le dernier à avoir gagné Roland Garros.
Le maire de Yaoundé. C'est une dream team, hein.
Le maire de Yaoundé.
Et Charles, tu l'as dit, des influenceurs également comme Léna Situation ou encore Squeezie. Didier, toi qui me disais que c'était ton youtubeur préféré.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Barbara, pourquoi on s'en fout pas ?
Non, mais j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était des gens pour devenir ministre.
Et bah, c'est bah peut-être si, qu'une première étape. Pas. Peut-être
Yannick
que Doha, par la suite.
Sport.
À la vache.
Pour l'instant, on est dans
Squeezie
la campagne.
À la culture.
Et Théodora quoi que,
ah bah merci Théodora.
Non mais c'est intéressant.
Que ça sera pas moins bien.
C'est intéressant parce que Théodora.
Merci. S'il y avait besoin d'un ministre.
C'est une chanteuse. C'est un peu. Elle est un peu plus trash que Aya Nakamura. Mais c'est pas mal ce qu'elle fait. Hein. Mais surtout, elle s'est fait connaître en donnant une interview aux États-Unis parce que bien sûr, elle est allée dans le pays où le racisme est le moins important, comme on le sait, pour dire que la France était un pays raciste. Alors que franchement, elle doit son succès à un public qui est vraiment de toutes origines, Théodora. Donc après, elle l'a mise un peu en veilleuse vu qu'elle a reçu des prix et que elle doit son succès et son pognon essentiellement aux Français qu'elle a pourtant traité de raciste. Donc je pense que c'est pour ça que Monsieur Mélenchon s'est intéressé à elle, pas pour son art parce que sinon, je crois qu'il la connaissait pas. C'est pour ses prises de position. Quant à Yannick Noah. Oh, je suis étonné, moi. Je pense
il avait soutenu Ségolène Royal, souvenez-vous, sur scène.
Il avait dit en 2017 la France, si c'est Nicolas Sarkozy, je crois, dans mes
souvenirs. Non, pas Nicolas Sarkozy. À l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen.
Est-ce que c'est la France insoumise qui fait fuiter qu'elle contacte ces gens-là, ou c'est ces gens-là qui affirment se rapprocher de la France insoumise ?
Non, voilà. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est
voilà.
La France insoumise
pour
qui fait
l'instant,
fuiter des noms.
La France insoumise met des gens plus ou moins dans l'indélicatesse parce que on va les. J'aimerais bien qu'on demande à Monsieur Noah ou à Léna Situation.
Ils vont démentir.
Ils vont être d'accord pour rouler pour Jean-Luc Mélenchon. J'ai des doutes.
On enchaîne.
Non, on enchaîne.
Charles, on s'en fiche.
Non, il s'en fout un peu.
Ah, il avait dit un peu. Un peu envie de parler. Le pape en croisade contre l'intelligence artificielle. Didier, tu t'en fous ou pas ?
Ah non.
Charles,
on s'en fout pas.
Et Barbara ?
On s'en fout pas du tout.
L'IA est déjà un environnement dans lequel nous sommes immergés et un pouvoir avec lequel nous devons composer. C'est pourquoi il ne suffit pas de la réglementer. Elle doit être désarmée et rendue accessible. Charles Consigny.
Non mais moi je crois pas du tout à ces histoires de robots qui s'autonomiseraient au point de détruire l'humanité. Je pense que ces thèses-là sont pas mal diffusées par les entreprises qui font de l'IA pour valoriser l'intelligence artificielle, pour dire c'est tellement génial que vous allez voir que si ça se trouve un jour, les robots vont tous nous tuer. Je ne le pense pas. Je pense qu'on peut toujours débrancher ces machines et que en revanche c'est une opportunité énorme qui s'offre à l'humanité de perfectionner beaucoup de technologies, mais qu'il faut pas en avoir peur. Moi, je répondrais au pape, n'ayez pas peur.
Désarmer ne signifie pas renoncer à la technologie, mais l'empêcher de dominer.
Non mais c'est intéressant, c'est surtout faut écouter ce qu'a dit. Non mais faut écouter ce qu'a dit le pape en longueur aussi. Et je l'ai fait hier soir. Il dit aussi que il ne faut pas que l'humanité et donc l'homme perde la main sur ces machines. Il dit pas que l'intelligence artificielle c'est complètement. Enfin, il dit que c'est dangereux, mais il dit pas que c'est interdit. Il dit juste que l'homme doit garder la main sur ses machines.
Il faut l'empêcher
de dominer
l'humain.
Et moi, je trouve que vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est une position qui me paraît assez raisonnable.
Ben est-ce que le pape, il a pas surtout peur que la nouvelle religion soit l'intelligence artificielle et qu'il soit, mais lui, ça, en tant que chef de l'Église catholique, voilà, dépassé par ChatGPT, notre
je
nouveau
pas,
Dieu?
Franchement, moi, je vois que le monde sur la place de Rome où le pape donne ses homélies, prononce ses homélies, Il n'y a pas de risque majeur.
En Europe, quand même, c'est une
religion. Que les gens se mettent à prier de ChatGPT.
En Europe, mais c'est pas là qu'aujourd'hui. Oui, mais c'est pas en Europe que se trouve le plus de chrétiens dans le monde.
Moi, je pense que
c'est l'Afrique et l'Asie.
Tu parlais des champions de l'IA. Je pense que la nouvelle religion de ces champions, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui, à mon avis, qui pointe.
Léon XIV. Alors, juste un point, puisque j'ai parlé de lui tout à l'heure. J'invite les gens à lire l'ouvrage Capital de Bernanos, qui s'appelle justement La France contre les robots, qu'il a publié en 1947, dans lequel il explique la question. Il n'y avait pas l'IA en 1947 quand Bernanos écrit ce livre, mais ce qu'il explique, c'est attention à l'idolâtrie de la technique. C'est tout. Il dit juste, et d'ailleurs, il développe pourquoi l'esprit français, c'est justement l'esprit du libre arbitre et de la pensée critique pour dire la technique, elle existe. On peut pas empêcher le progrès technique, mais l'idolâtrie de la technique telle que les anglo-saxons nous la vendent, c'est ce que disait Bernanos déjà en 47, ça c'est quelque chose qui normalement devrait trouver une résistance dans l'esprit français. Léon XIV, il s'appelle pas Léon XIV pour rien. Léon XIII, c'est celui qui en 1891 fait la fameuse encyclique Rerum Novarum sur justement le monde industriel dans lequel il vit, les inégalités sociales grandissantes qui s'y expriment, et justement il explique cette soif d'innovation, Léon XIII, cette soif d'innovation, il faut la contrôler, il faut que l'humain ait la main aussi sur ces évolutions techniques qu'on ne peut pas empêcher mais avoir la main.
Surtout la
et c'est pas pour rien qu'il a choisi ce nom-là.
Pourrait s'appeler les portes ouvertes, non?
Enfoncer les portes ouvertes, il y a un autre élément aussi. C'est pas enfoncer les portes ouvertes parce que tu connais peut-être pas l'histoire de l'encyclique Rerum Novarum, mais elle a eu une influence. À l'époque, le catholicisme social avait une influence encore sur les patrons et le monde ouvrier.
Oui. C'est la peut-être naissance des patrons ouvriers derrière.
Non, mais peut-être que le pape, ce pape-là, peut avoir une influence digitale notamment, pour essayer de faire prendre conscience. Encore une fois, aujourd'hui, le monde chrétien, le monde catholique en particulier, il est en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. C'est là que vous avez des masses de gens qui sont connectés, qui sont sur l'IA, qui sont sur les réseaux. Bah, peut-être que ces catholiques-là aussi, ils peuvent penser autrement. Oui, mais aux États-Unis, ceux qui font l'IA, c'est souvent des protestants, notamment, parce que c'est des WASP. Donc, c'est pas des gens qui sont forcément connaisseurs du monde catholique.
En sorte que justement, les progrès techniques arrivent partout et aussi en Afrique. À mon avis, ça sera un combat plus important.
Eh ben oui, mais la question, c'est pas la question. Mais excuse-moi, Olivier, c'est pas ça que le pape soulève. Le pape, il soulève la question. Comment l'humain a-t-il encore sa place dans un monde où la technique domine? C'est pas inintéressant philosophiquement. Et on peut pas balayer ça d'un revers de main en disant
désormais,
on s'en fout, il y a l'IA et c'est juste pas bon.
Désormais, tu t'en remettras à l'intelligence artificielle pour le futur, pour régler ta vie, et tu t'en remettras plus au destin ou à Dieu éventuellement. Et en plus, il y a autre chose. C'est-à-dire que tous les, n'oublions pas que Léon XIV, il est américain, il est anti-Trump à fond, et que tous les boss de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ils sont autour de Donald Trump, ils sont en train de devenir.
Non, mais moi, je trouvais qu'il y avait du bon sens dans la prise de position en disant, attention, faut que l'humain reste le maître.
Alors, vas-y, Luigi. Parce qu'on est en Italie, au Vatican. Vas-y, Luigi. Andiamo, Luigi.
Eh ben, on va finir avec un anniversaire. Ça fait un an que les voies de covoiturage sur le périphérique à Paris ont été mises en place.
Mince. Et c'est pas fluide.
Attention. 100 000 PV en un an pour les fameux autosolistes. On s'en fout pas, Charles.
On ne s'en fout pas.
Didier.
Non, on s'en fout pas.
Et Barbara.
On s'en fout pas parce que je vais pas tarder à les recevoir alors.
Eh oui. 100 000 PV parce qu'on t'a pris seul dans ta bagnole sur la voie de covoiturage.
Alors après un an, le taux de respect de la voie de gauche réservée au covoiturage progresse, mais il y a toujours beaucoup d'amendes et surtout la ville de Paris envisage d'étendre le dispositif à tout l'anneau routier. Ah bah ça alors.
Consigny,
tu pourrais plus être seul.
C'est un coup à mettre une fausse personne sur la place passager.
Déjà,
le radar le voit.
Il y a des gens, tu sais pas s'ils sont vrais ou faux. Donc je mets au défi.
En revanche, tu peux louer des gens.
Je citerai pas de nom, mais il y a certaines personnes, je mets au défi un radar de savoir si c'est une personne humaine ou une personne synthétique. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez, la persécution des automobilistes, c'est-à-dire des gens, continue de la part des Khmers rouges de la ville de Paris. Je ne suis pas surpris.
Dans un instant, avec les grandes gueules, perspective du deuxième tour de l'élection présidentielle. Si on se fie au sondage, Jordan Bardella continue de caracoler en tête, mais qui pour le deuxième tour? Ça se resserre entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon.
C'est chaud.
Philippe Mélenchon, qui au deuxième? À tout de suite au 32-16.
Chaud.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.